Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et j'animerai encore une fois cette semaine cette merveilleuse émission sur l'automobile avec mon collègue et mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc!
Salut mon cher!
Comment vas-tu?
Ça va très bien, là je suis un petit peu...
Entre deux?
entre deux, là, parce que là je m'en vais me faire checker encore une fois. Il me semble que je passe mon temps à faire ça de ce temps-là. Alors...
T'es comme un vieux char, hein? Ça prend beaucoup de visites au garage pour voir si tout va comme il faut.
Mais, c'est dans ce temps-là que je suis content de faire ça à distance. Tu vois?
Ouais, moi, je mangerais quelques taloches.
Oui, exactement.
Ben, c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça, t'es en attente pour aller passer des tests. T'es dans ta voiture, donc on va peut-être faire un premier bloc un peu écourté. Le problème qu'on a eu cette semaine, c'est qu'on avait un tirage, hein, puis il y a beaucoup de gens qui attendent après les résultats du tirage. Et puis, pour faire le tirage, il a fallu, comme on a enregistré des blocs avant, puis là, on fallait attendre pour enregistrer notre premier bloc pour annoncer nos gagnants. Donc, on est un petit peu pris dans le temps. Fait que ça se peut que l'émission cette semaine soit un petit peu écourtée à cause de ça. Puis, si je continue à parler, par exemple, ça va être aussi long. Donc, Marc, on va commencer. On va laisser les gens patienter un peu. Hein, on va commencer par parler de l'AJAC qui a annoncé, bon, l'AJAC a annoncé voiture de l'année et tout ça. Là, on est dans les nouvelles technologies et tout ça. Il y avait plusieurs choses intéressantes, là, comme il y a eu trois prix qui ont été donnés. Il y avait meilleure nouvelle technologie verte, meilleure nouvelle technologie de sécurité et meilleure nouvelle technique. Donc, il y avait trois catégories. Dans chaque catégorie, il y avait des voitures en lice qui pouvaient gagner. Ou des constructeurs
pas,
pour un système.
Pas des voitures, c'est constructeurs. Plus un système. En fait.
Ouais, ouais. C'est ça. Constructeurs qui avaient un système, mais c'est souvent dans certaines voitures spécifiques. Comme, mettons, meilleure nouvelle technologie verte, ben il y avait Chevrolet pour le système de régénération sur demande dans la Chevrolet Bolt. Lexus, système hybride multiphase. Puis Toyota, système de recirculation de la chaleur de l'échappement. Bon, il y a des choses là-dedans, des technologies qui nous échappent. On n'est pas nécessairement au courant de tout ce que ça fait. Mais j'imagine qu'on utilise la chaleur. Chez Toyota, on utilise la chaleur qui est perdue normalement pour l'utiliser comme énergie à quelque part, soit pour chauffer quelque chose, soit pour prendre de l'énergie. La chaleur, il y a de l'énergie. Peut-être reprendre cette énergie-là pour faire quelque chose avec. Mais bon.
C'est ça.
Aussi, on avait meilleure nouvelle technologie de sécurité. Il y a Lexus avec son Safety System Plus. Il y avait Fiat Chrysler, FCA, pour la transmission e-Flight dans la Chrysler Pacifica hybride. Puis Volvo pour le groupe motopropulseur hybride combiné pour le S90.
C'est cela.
Meilleure nouveauté technique. Là, on avait quatre. Dans les autres, on avait trois. Là, on en a quatre. On avait Cadillac pour sa technologie Super Cruise. Je ne sais pas si c'est de partir sur une Super Cruise à Sainte-Catherine avec ta Cadillac.
Le Super Cruise, c'est le système autonome de la Cadillac CT6. Donc, c'est vraiment un système qui te permet de laisser la voiture prendre les décisions elle-même. Là.
OK.
C'est très efficace sur autoroute, par exemple. Même si la plupart des voitures maintenant en sont munies, celui-là est particulièrement efficace.
OK. Bon, j'aimais bien ma version, mais c'est correct. L'officiel est plus, se rapporte plus au domaine de l'automobile. On avait aussi GM pour le système de communication de véhicule à véhicule V2. Donc ça va être important, hein, pour quand les voitures vont être autonomes, que les voitures puissent se parler entre elles.
Oui.
La seule chose qui va être aussi importante, c'est que ça soit multiconstructeur. Donc il n'y a pas juste les GM qui se parlent, les Ford qui se parlent, les Cadillac qui se parlent, parce que ça va être un bordel total, mais il faudrait que tous les véhicules se parlent à un moment donné, ça serait très intéressant.
Déjà, on parle, bon, GM parle de véhicule à véhicule, et il y a d'autres véhicules, d'autres compagnies, je pense à Audi, entre autres, qui ont des systèmes qui parlent aux infrastructures,
okay.
Donc qui parlent aux lumières de circulation, par exemple,
pour
savoir, bon, en 30 secondes, elle va changer de couleur. Là.
C'est le temps d'arrêter. C'est bon, il y a Honda aussi, avec son Cabin Talk et Cabin Watch. Toi, t'en avais parlé dans l'Honda Odyssey, où tu avais un système de communication, tu peux quasiment faire le pilote, attention aux passagers, nous sommes sur le point de décoller, des choses comme ça.
Tu peux indiquer les portes de sortie, puis tout, avec les gestes, puis la chorégraphie, puis tout. Là, mais bon.
T'as-tu la petite affaire gonflable à l'entour du cou quand tu fais ça, ou t'es pas obligé, j'imagine?
T'es pas obligé, mais okay. J'avoue que c'est quand même. Mais le pire, c'est de rouler avec ça autour du cou, c'est comme moins winner. Mais en tout cas, c'est pas grave.
Surtout là, si ça se met à gonfler tout d'un coup, là, ça va être assez. Mais bon, on dérape un peu. Puis le dernier, c'est le Nissan Pro Pilote Assist qu'on retrouve dans la nouvelle Leaf. Puis c'était aussi dans la publicité de Nissan, là, dans le Rogue, j'imagine. Donc, j'imagine que le Rogue doit l'avoir aussi. C'est finalement un système de conduite autonome.
C'est ça, exactement.
Donc,
c'est vraiment dans l'autonomie, là.
C'est ça. Donc, si on regarde les gagnants, Ben, une nouvelle technologie verte a été donnée à Toyota pour le système de recirculation de la chaleur de l'échappement. Puis c'est dans la Prius 2017-2018. Le prix de la meilleure nouvelle technologie de sécurité, c'est à Lexus pour le système Safety Plus, donc Safety System Plus, donc Toyota qui gagne finalement les deux premiers prix. Et puis le dernier, la meilleure nouvelle technique a été remis à Cadillac pour le Super Cruise Technology.
Oui, effectivement.
Donc, c'est bien. Bravo à tous les gagnants. Ça a été fait par une firme. L'Ajac cumule les chiffres. Après ça, donne ça à la firme KPMG. Puis c'est eux autres qui passent à travers les chiffres et qui nomment les gagnants au bout de la ligne. Là. C'est pas fait à l'interne.
C'est le même principe, en fait, que les voitures de l'année. Là.
Ouais.
C'est juste que les votes sont faits de façon différente. Il faut aussi savoir qu'il y a un jury qui permet de déterminer les finalistes. Et ce jury-là est composé de journalistes automobiles qui ont à la base une formation un peu plus scientifique.
Okay.
Des gens qui sont diplômés en ingénierie ou des choses comme ça. Là. Parce que, tu sais, il y en a des journalistes qui savent lire. Là. Fait que,
il y en a quelques-uns.
Pas ouais, c'est ça. Ouais. Alors,
c'est bon.
Pas toutes, là, mais en général, ils savent conduire. Mais sérieusement, c'est vraiment des gens donc, qui ont une connaissance technique un peu plus poussée qui sont appelés à juger de ça.
C'est bon. Donc, ça fait le tour de ça. Deuxième chose, je voulais te parler, Marc. J'ai entendu ça dernièrement. Je ne sais pas si ça fait longtemps que c'est sorti, mais j'ai entendu ça sur une émission que j'écoute, un podcast que j'écoute, parce que oui, j'en fais et j'en écoute, où Mercedes, il y a un journal allemand qui aurait eu accès à des documents privés. Ils n'avaient pas nécessairement droit à voir ces documents-là, mais ils ont quand même trouvé et passé à travers, et des courriels qui disaient que Mercedes aurait joué à peu près le même jeu que Volkswagen avec ses diesels, donc des logiciels trafiqués qui ferait finalement à croire au système de test que la voiture passait les émissions tandis qu'elle les passait vraiment pas. Donc la voiture trichait, savait quand elle était en mode test ou quand elle était sur la route, désactivait même les systèmes anti-pollution après comme quelque chose comme 26 km. Il y avait plus aucun système d'anti-pollution qui fonctionnait dans l'auto. Il y a des courriels même d'ingénieurs à l'interne qui posaient des questions aux dirigeants en disant on a fait ce logiciel-là, vous nous dites de mettre ça sur l'auto, mais est-ce que c'est légal? Puis, donc, ouais. Donc, Mercedes qui va probablement tomber dans le même bateau que Volkswagen.
Oui, bien en fait, tu remarqueras d'ailleurs que la plupart des véhicules, Mercedes, ça a pris du temps avant qu'ils ramènent leur véhicule diesel. Hein.
Oui.
Ça a été long avant qu'ils soient autorisés. Il n'y a pas eu d'accusation de portée encore, cependant. Faut faire attention avec ça, évidemment, là, parce qu'il n'y a aucune accusation de portée. Il n'y a pas de preuves qui ont été établies, hors de tout doute, que Mercedes est impliqué dans le même genre.
Non, non, c'est selon les rumeurs, selon ce journal-là, c'est tout.
C'est ça. Fait que pour le moment, on n'a rien trouvé de cette nature-là. J'ai bien hâte de voir si, effectivement, on va être en mesure de prouver. Mais tu sais, l'enquête se poursuit à tous les niveaux. Hein. Cette semaine, ils sont allés faire une perquisition chez certains ingénieurs et certains dirigeants d'Audi aller fouiller. Ouais, c'est ça. Alors, l'enquête se poursuit à tous les niveaux. Toutes les compagnies sont pas mal scrutées sous la loupe pour être sûres de savoir si ils sont vraiment impliqués dans le scandale ou pas.
Ouais.
Moi, je pense que dans une certaine mesure, elles le sont probablement toutes, seulement à différents niveaux probablement.
Ouais.
Parce que tu sais, la clé du succès c'était l'économie de carburant tout en maintenant la puissance des véhicules. Et je pense que de ce point de vue-là, beaucoup de ces véhicules-là ont probablement des systèmes qui le permettent. Est-ce que c'était fait volontairement? Est-ce que c'était fait pour tromper les tests? Je ne sais pas. Est-ce que c'était fait pour répondre aux besoins des consommateurs? Tu sais, il peut y avoir plusieurs facteurs, là. Alors, moi, je vais attendre que les accusations soient portées, mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, l'enquête se poursuit.
Ouais, puis il y a Renault aussi en Europe qui s'était fait taper ses doigts pour le même genre de choses. Donc, tu sais, c'est pas juste les Allemands, il y a d'autres aussi constructeurs qui jouent dans ça. Puis j'imagine que la majorité, c'est des constructeurs qui jouaient avec la technologie des filtres à particules plus qu'avec l'urée. Parce que j'imagine que c'est ça qui est le plus difficile. Ils sont pas capables de détruire la majorité des toxines là, qui sortent du moteur avec les filtres. Ça fonctionne juste pas. Là. Mais,
ouais, probablement.
Mais,
j'avoue que là, c'est, je me suis pas rendu dans l'enquête à ce niveau-là. Là. Mais c'est quand même... mais si tu veux en savoir un peu plus là-dessus, il existe sur Netflix un documentaire.
OK, sur Volkswagen, hein, je pense.
Oui, ça s'appelle Dirty Money, sale en français, parce qu'il est traduit. C'est très intéressant. Écoute, il y a des erreurs factuelles, à mon avis, qui sont un peu dérangeantes. Là.
OK, on a romancé un petit peu.
Ben, en fait, tu sais, ils disent, par exemple, ils te montrent à l'écran une espèce de vieux camion puis une Volkswagen, puis ils disent « Ah, la Volkswagen faisait plus d'émissions polluantes que le F-150 », parce que c'est pas un F-150 pantoute. Là.
OK.
T'sais, c'est des affaires comme ça, là.
J'espère au moins que c'est un Ford, parce que...
Ça perd un peu de sa crédibilité, mais en même temps, le fond de l'histoire, quant à savoir qui a trouvé les tricheries et tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine d'être écouté.
OK, moi, je vais peut-être aller voir ça. On en parlera peut-être à un moment donné. Ça vaudrait la peine. Je l'ai vu passer sur Netflix, mais j'ai pas pris le temps de cliquer dessus pour le regarder. Mais oui, je l'ai vu, ce documentaire-là.
Ou en fait, une saison complète qui s'appelle L'argent sale. Là, il y a d'autres scandales industriels. Mais le premier, c'est celui de Volkswagen.
Non, OK. Bon, c'est bon. Ça a fait les manchettes pas mal l'an passé.
Un petit peu.
Ouais, puis Volkswagen paye encore pour ça aujourd'hui. Mais bon.
Oui, effectivement.
Ils ont quand même des beaux véhicules.
Oui, puis c'est bien.
Oui. Bon, Marc, on arrête-tu de faire languir les gens? C'est sûr et certain.
Non, je vais parler d'une petite nouvelle avant.
Ah, OK, vas-y.
Une nouvelle complètement niaiseuse que j'ai trouvée tellement drôle. Toi qui es un amateur d'applications puis de bébelles, il existe aux États-Unis une application qui s'appelle MyRide.
Oui.
MyRide, l'idée, c'est que tu peux gérer ton club d'auto virtuel, si tu veux, puis tu peux rencontrer des gens. C'est une espèce de Tinder de l'automobile, OK?
OK.
Où tu rencontres des gens qui ont les mêmes voitures que toi, qui ont les ci, qui ont ça. Bref, tout ça pour dire que MyRide, on décide de faire un sondage en Californie auprès des femmes pour savoir si le type de voiture que tu conduisais avait une influence sur ton pouvoir de séduction.
OK.
Et j'ai trouvé ça très drôle. C'est hyper macho comme demande, mais ils se sont rendus compte que chez les femmes de 25 ans et moins, 81% disaient que le type de voiture que tu conduis est important pour savoir s'ils vont t'accorder de l'importance ou pas.
Bon, ça expliquerait pourquoi je pognais pas avec ma Chevette dans le temps.
Ouais, pis, mais rassure-toi, en haut de 25 ans, c'est quand même 79%.
OK.
Fait que tu pognes pas plus aujourd'hui.
Non. Mon Escape, ma Leaf, non. À moins que je pogne quelqu'un d'écologique, mais moi, je suis déjà marié, fait que ça me change vraiment rien. Là.
Moi non plus, ça ne dérange pas. Là. C'est pour ça que j'essaie des charges. Je me dis, ça ne change rien. Ma femme est pognée avec moi, de toute façon, depuis 22 ans. Fait que ça ne change rien. Mais, autre élément que j'ai trouvé très drôle, les femmes de 25 ans et moins ont dit qu'elles voulaient des voitures sportives et excitantes. C'est ça qui les intéressait.
Okay.
Alors que les femmes de 25 ans et plus voulaient des voitures classiques et confortables.
OK. Ouais. Fait que une petite Porsche Boxster quand t'es plus jeune, puis une Bentley quand t'es plus vieille.
C'est ça. Et messieurs, à 40-50 ans, quand vous tombez dans votre crise du démon du midi, si vous achetez une Porsche Boxster, vous allez pogner une petite jeune de 22 ans. Ça se peut que ce soit le fun, mais ça se peut que ce soit pas ça que vous ayez besoin non plus. Alors, j'ai trouvé ça hyper macho comme sondage, mais j'ai trouvé ça très, très, très drôle.
Ouais.
Alors, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça amusant de voir qu'il y a encore des gens qui s'attardent à ce genre d'affaires-là.
Non, oui, c'est un peu bizarre, mais j'imagine que ça doit avoir une certaine importance. Je veux dire, les gens s'achètent pas ce type de voiture-là, des voitures flashantes et tout ça, juste pour le fait de... des conduire. Il y a un attrait après ça aussi. Là.
J'ose espérer que tu le fais pour toi. Là.
Bon, oui, tu le fais pour toi, mais...
Je ne l'ai pas fait en fonction de m'en servir comme outil de séduction. Là.
Non.
Parce mais... que c'est raté en maudit. Là. J'avais une vieille Honda Accord rouillée à un moment donné. Là.
Ça ne séduit pas beaucoup.
Mais pas winner. Winner.
Non, mais tu sais, je suis certain qu'il y a des gens qui s'achètent une voiture dans le but que hey, avec ça, je vais te pogner. Dans un certain âge, je parle pas que ça arrive encore tu sais, à des gens un peu plus âgés, mais tu sais, quand t'es jeune, peut-être. T'sais. Mais bon,
peut-être.
On verra.
On n'est pas.
Ouais,
fait que là, c'est le temps de nommer tes gagnants.
C'est le temps. On commence par les gagnants du salon de la moto?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, effectivement.
Est-ce que tu veux les nommer ou tu veux que je le fasse?
Ben, je vais te laisser les nommer. Moi, je vais cependant expliquer à tout le monde, aux gagnants, entre autres, là, qui vont recevoir un courriel, qu'il faut se présenter au salon de la moto au bureau des promoteurs. Ils ont vos noms. Moi, j'ai envoyé un courriel aux organisateurs. Ils devraient avoir vos noms. Donc, à ce moment-là, vos billets vont vous attendre au salon de la moto même, au bureau des promoteurs. Je rappelle que le salon de la moto, c'est en fin de semaine, c'est au Palais des Congrès et vous avez juste à vous présenter là-bas et vous aurez vos billets à la porte.
Oui, j'espère que vous avez vérifié vos courriels ou vous allez écouter l'émission rapidement parce que sinon...
C'est ça.
Un peu tard. On ne peut pas remettre ça l'année prochaine. Donc, c'est bon. Donc, les gagnants pour le salon de la moto 2017, c'est Steve Charron et Alain Parent. Donc, félicitations, messieurs. J'espère que vous allez passer du bon temps là-bas et que vous allez peut-être penser à nous pendant que vous allez vous magasiner une belle moto, je sais pas, une Kawasaki ou une Suzuki ou peut-être une Harley, on sait jamais.
Hein? Indians.
Des choses intéressantes à voir là-bas.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir d'ailleurs, là. Des motos vintage, des trucs techno, c'est vraiment le fun cette année. Alors, on vous le dit, félicitations, M. Parent, M. Charron. Bonne visite, allez-y, vos billets vous attendent au bureau du promoteur, au salon de la moto.
C'est bon. Puis maintenant, conduite hivernale, ces gens-là, faut qu'ils fassent quoi?
Ces gens-là, ben, on va leur envoyer. On veut qu'ils nous retournent leurs coordonnées complètes et les gens de Turo, avec qui on a organisé le concours, vont communiquer avec eux pour organiser tout ça. On rappelle que c'est pour un cours de conduite hivernale qui se tient le 4 mars à Saner. Mm-hmm. C'est toute la journée, là, genre de 9h le matin à 3h30 l'après-midi. C'est donné par Marie-Laurence Paquin. Marie-Laurence, là, qui est une cascadeuse, journaliste automobile qu'on peut voir entre autres dans RPM+.
Oui.
Donc, c'est Marie-Laurence qui donne la formation. C'est pour une personne, évidemment. Nous, on en fait tirer deux. Et c'est lors du 4 mars. On ne peut pas changer la date non plus, en espérant que toutes les installations seront encore correctes, là, rendues au 4 mars, mais c'est donc à cette date-là. Et une fois que vous aurez reçu le courriel, renvoyez-nous vos coordonnées complètes, adresse, numéro de téléphone, et nous, on transmet ça aux gens de Turo, et ils vont communiquer avec vous.
Super. Donc, très important, par exemple, si jamais vous ne pouvez pas y aller, contactez-nous et dites-nous-le, puis on s'arrangera autrement, là, soit peut-être que c'est transférable à quelqu'un de votre famille, ou quelque chose comme ça.
C'est transférable.
Au moins, dites-nous qui va y aller, c'est très, très important. Si jamais c'est pas vous qui y allez, vous avez participé pour quelqu'un d'autre, c'est très important de savoir la personne qui va y aller. Cette journée-là. Donc, les gagnants, Marc, j'aimerais bien ça faire un roulement de tambour. Malheureusement, j'en ai pas à la portée de main.
Ouais, fallait à la main, là. Moi, je peux les nommer, là.
Ouais, non, c'est correct. Mais je vais te laisser les nommer, ceux-là. C'est qui nos gagnants?
Alors, les gagnants, c'est Normand Laberge et Éric Vallière. On sait que c'est des auditeurs réguliers. On est très contents que vous ayez gagné. Messieurs, félicitations. On vous rappelle, Luc va vous envoyer un courriel. On veut avoir vos coordonnées et précises. Et qui va y aller, et les gens vont recommuniquer avec vous pour régler tout ça.
Exact. Donc, félicitations, M. Laberge. Félicitations, M. Vallière. On espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous allez voir, Marie-Laurence est une fille extrêmement sympathique. Puis, je suis certain qu'elle a des bons trucs à vous montrer pour peut-être la fin de l'hiver, surtout l'hiver prochain.
Elle conduit pas bien comme nous autres, là, mais qu'est-ce que tu veux?
Moi, je commenterai pas là-dessus, parce que je pense qu'elle conduit plusieurs fois mieux que moi. Pour l'avoir vu conduire un peu de temps en temps, là, ça y fait pas peur, elle.
Non. C'est une blague, là. Ouais. C'est une excellente conductrice, c'était juste une niaiserie.
Je pense qu'elle serait capable de me faire perdre mes couleurs, si elle voulait. Je pourrais venir blanc en sortant de l'auto. Elle pousse la machine un petit peu plus que moi.
Même moi, j'ai réussi à te faire ça. Fait que garde, c'est pas une référence.
Ouais, mais tout pas pour les mêmes raisons. Donc, Marc, on va faire une courte pause. Puis on va revenir avec Martin Archambault de l'AVEC qui va venir nous parler de la pétition que l'AVEC met de l'avant pour avoir plus de bornes de recharge rapide au Québec. Nous sommes de retour et on rejoint notre spécialiste en véhicules électriques, un monsieur que j'appelle mon ami, monsieur Martin Archambault. Salut Martin.
Salut Luc, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ben, très bien, merci. C'est correct que tu m'appelles mon ami. Je me rappelle à un moment donné qu'avec Marc, là, on dirait qu'il y avait de la misère à te qualifier d'ami. Fait qu'au moins ça t'en fait un si je suis ton ami.
Ouais, c'est ça Marc, c'est volatile d'une semaine à l'autre, là, mais moi je l'appelle mon ami puis j'espère que c'est réciproque. Sinon, regarde.
Ouais. Ça va venir.
C'est ça. Des fois, il y a des déceptions dans la vie. Ça pourrait en être une. Mais moi, je l'aime bien. Donc, Martin, on va parler de quelque chose cette semaine dont Marc a glissé un mot la semaine dernière. C'est le fait que l'AVEC a lancé une pétition que vous envoyez à l'Assemblée nationale. Et moi, je trouve que c'est une belle initiative. Explique aux gens un peu ce que l'AVEC veut faire, là.
Ben oui, c'est très simple. En fait, juste pour mettre un peu dans le contexte, faire un peu d'historique là-dessus, il y a déjà plusieurs, déjà 2 ans à peu près, là, qu'on a des communications ci et là avec les différents intervenants du milieu, que ce soit le circuit électrique, que ce soit le gouvernement en place au provincial, pour leur parler de l'importance que dans le plan d'électrification des transports, donc on sait que le gouvernement veut avoir 100 000 autos électriques d'ici 2020, qu'on pense pas juste à vendre des autos, mais qu'on pense aussi à supporter ces voitures-là par une infrastructure qui se tient. Bon, tu sais, je le dis souvent, 90% des recharges pour quelqu'un qui a une auto électrique, ça se fait à la maison, puis c'est vrai. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte que quand on a ça en tête, on tend à oublier que l'autre 10%, ben, si c'est 90% à la maison, l'autre 10%, c'est pas à la maison. Et c'est de plus en plus avec les voitures qu'on peut plus d'autonomie, puis le réseau qui se développe, on se lance dans des distances maintenant assez appréciables. Moi, je fais régulièrement Montréal-Québec, puis tout ça. Puis on dépend donc d'un réseau de bornes de recharge rapide le long des axes routiers, des grands axes routiers pour se charger. Le problème, c'est qu'on a fait beaucoup, beaucoup de publicité. On a mis des subventions pour que les gens achètent des autos électriques. Donc, le nombre d'autos électriques, c'est assez simple. Il a à peu près doublé chaque année depuis 4 ans. Donc, on est rendu quelque chose comme 24 000. Il y en avait 12 000 l'année passée. Puis, il y en aura 50 000 l'année prochaine. Puis, espérons-le, 100 000 en 2020 comme c'est voulu. Ouais. Le problème, c'est que l'infrastructure de recharge, elle, ne croît pas à la même vitesse. C'est-à-dire que, oui, on ajoute des bornes de recharge rapide. On en a plus qu'on en avait, mais on en a encore de façon relativement anémique, là. Donc, le taux, le nombre de bornes de recharge que ça prend pour que ça roule bien, pour que ça soit efficace, on regarde dans tous les pays du monde où des systèmes ont été mis en place, on parle à peu près d'un ratio grosso modo là, de 2 %. C'est-à-dire que tu regardes 2 % des autos électriques qui roulent, puis ça te prend à peu près là, le nombre de tes autos électriques, 2 % de ça, c'est le nombre de bornes de recharge rapide que ça te prend.
Okay.
Donc, on fait un calcul rapide, 100 000 voitures électriques en 2020. Grosso modo, ça prendrait 2 000 bornes de recharge rapide si on va être capable de supporter ces 100 000 voitures-là.
J'imagine qu'on est loin de ça.
On est très loin de ça. On est en bas de 150 bornes rapides au moment où on se parle. Et là, le problème, c'est que là, le pourcentage donc de bornes rapides par voiture est en bas de 1 % est très, très bas. Et depuis un an et demi, je dirais un an, c'est criant, mais un an et demi, déjà, on le sentait, les problèmes commencent à arriver. Les gens arrivent à une borne de recharge lors d'un long déplacement, par exemple, quelqu'un qui travaille à Québec, qui a une réunion à Montréal. Là, il arrive à la borne de recharge, puis il y a quelqu'un qui est déjà en train de se charger, il y en a un qui attend en arrière, puis là, lui, il est l'autre d'après. C'est pas le 15-20 minutes ou le 30 minutes que tu passes à la borne de recharge qui est le problème, parce que ça, normalement, tu l'as prévu dans ton déplacement. C'est le 30 minutes du gars en avant de toi, puis le 30 minutes de l'autre qui est déjà en train de se charger, que tu n'as pas calculé.
Ouais, là, ça, c'est 30... si t'es chanceux, puis sont à la borne, puis ils attendent que ça finisse pour s'en aller, puis laisser la place à quelqu'un d'autre.
Exactement. Ouais. Donc, le problème, il est là. Nous, à l'association, on le sait parce que les gens appellent, puis en plaigne et on commence à avoir des cas, là, puis j'en ai répertorié plusieurs pour étoffer un peu notre demande, de gens qui disent, écoute, moi, je me magasinais une auto électrique, ça fait un an, je regarde ça, mon choix t'a fait, mais là, je regarde un peu, je lis ce qui se passe, il y a vraiment un problème d'infrastructure, je pense que je vais attendre. Fait que d'un côté, le gouvernement investit beaucoup d'argent pour qu'on achète des autos électriques, mais d'autre côté, il néglige l'infrastructure, donc c'est contre-productif, il se tire dans le pied en décourageant les gens qui ont des voitures électriques. Donc, ceux qui n'en ont pas se découragent à l'idée d'en acheter une parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de possibilité de se déplacer sur de longs déplacements. Puis ceux qui en ont grognent parce qu'à un moment donné, ça devient irritant qu'à chaque fois que tu as besoin d'arrêter pour te charger, c'est deux, trois, puis quatre fois le temps de prévu. Et là, on fait abstraction du fait que l'auto en avant de toi qui charge, là, ça peut être une Bolt ou ça peut être une Tesla là, qui est en train de se charger, puis elle va être là pendant 1h30, 2 heures.
Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement 30 minutes. Là.
Exact. Donc, ça prend des bornes, ça en prend plus, ça en prend beaucoup plus, et surtout, il faut qu'elles soient déployées de façon intelligente, donc le long des grands corridors routiers, dans les centres-villes des grandes villes, pas une à la fois, mais 2, 3, 4, 5 au même endroit, surtout sur les endroits névralgiques. Là, le modèle de la superstation de Belleuil, là, ben, ça en prend à plusieurs endroits. Donc, nous, on a commencé s'est fait une tête là-dessus. C'est bien certain que si le gouvernement allait de l'avant puis nous impliquait dans le dossier, comme on a déjà été impliqué dans d'autres dossiers, on va faire vraiment là une étude un peu plus approfondie avec nos membres où ça, on va regarder les points les plus critiques, mais c'est assez facile, je pense, assez rapidement, suggérer des emplacements pour avoir là des regroupements de bornes, là, donc en mettre 3 à tel endroit. Mais pour faire ça, et ça, c'est le nerf de la guerre, Luc, il faut bien comprendre qu'actuellement, ce qui fait que ça va pas vite installer des bornes, c'est le modèle d'affaires, hein. C'est-à-dire que comment c'est fait actuellement, c'est que le circuit électrique, à chaque fois qu'il veut installer une borne, il doit trouver quelqu'un qui accepte d'installer la borne sur son terrain puis d'en payer à moitié.
Ce qui n'est pas évident pour une borne rapide là, parce que c'est cher. Là.
C'est, ben oui, on parle d'à peu près 50 000 $ là, grosso modo, en moyenne, d'installer une borne de recharge rapide, donc l'achat et l'installation. Il faut comprendre que l'installation là-dedans est souvent très chère parce qu'il faut installer un transformateur bien souvent, il faut péter de l'asphalte, passer les fils, tu comprends? Il y a de l'infrastructure à faire du béton, à faire de l'asphalte, mettre des garde-fous. Ça coûte très cher ces affaires-là. Donc, on parle d'une cinquantaine de mille $. Donc, à payer à moitié, ça veut dire que le citoyen corporatif, le partenaire qui embarque puis dit « OK, moi, je vais en mettre une », puis souvent, il va en mettre rien qu'une, justement, parce qu'au prix que ça coûte, il n'en mettra pas plus qu'une. Ça lui coûte la moitié, donc 25 000. Ben 25 000 $ sur laquelle il va faire des profits sur la vente de l'électricité. L'électricité au Québec, on ne peut pas mettre ça le prix qu'on veut, c'est réglementé. Il y a juste Hydro-Québec qui vend, puis en plus, ben on est chanceux, il ne vend pas cher. Ça veut dire que le mark-up sur l'électricité, là, c'est, il n'y a pas grand profit à faire là. On estime, nous autres, là, qu'au rythme actuel, évidemment, ça peut s'accentuer s'il y a beaucoup plus de voitures, ça prend entre 35 et 40 ans à rentabiliser l'installation d'une borne de recharge rapide. Il n'y a pas personne qui est un financier sérieux qui va dire « Go, j'investis 25 000 $ pour refaire mon argent dedans de 35-40 ans. » Donc, c'est pas un modèle viable. Puis c'est surtout pas un modèle qui va permettre d'en mettre beaucoup à l'endroit où on veut. Là, il ne faut pas être en mode « Ah, on peut-tu trouver quelqu'un que ça y tente de? » Là, il faut être en mode un peu comme le gouvernement quand il installe des routes puis qu'il met des lampadaires, des poteaux de rue, puis des lampadaires, ben c'est là qu'il vole le lampadaire, il le met là. Là, il ne demande pas permission. Tu sais, il y a des infrastructures qui appartiennent au gouvernement sur lesquelles on pourrait installer de l'équipement dans la mesure où c'est lui qui le paye. Donc, notre demande, c'est 2000 bornes de recharge rapide, oui, mais considérées comme des infrastructures. Donc, payé par le gouvernement, comment? Pas en allant piger dans les poches de monsieur et madame tout le monde de façon supplémentaire, mais en prenant de l'argent que monsieur et madame tout le monde a déjà donné, c'est-à-dire l'argent du fonds vert, 3,3 milliards de dollars qui stagnent là-dedans, qui est utilisé pour toutes sortes d'affaires. On entendait ces derniers jours qu'ils vont rembourser une vieille dette du métro de Montréal avec ça, une partie de, c'est ça, d'une dette avec ça. Ils veulent aussi financer certains projets parfois farfelus. Donc, nous, on dit 2000 bornes rapides au prix que ça coûte actuellement, mettons-le à 50 000 $ qui est le coût moyen élevé, mettons, c'est une mesure qui coûte 100 millions. 3,3 milliards, 100 millions, il reste encore 3,2 milliards. Il n'y a pas personne qui va mourir avec ça. Puis on vient de régler le problème avec un nombre de bornes de recharge rapide suffisant pour faire face à l'objectif de 2020. Donc, c'est ce qu'on demande. On est capable d'expliquer de où ça vient, où ça s'en va. On est capable de suggérer un plan de déploiement cohérent pour tout ça. Et on va chercher l'appui du public, donc ceux qui conduisent des autos électriques, y compris ceux qui voudraient conduire des autos électriques, mais qui sont conscients que ça prend une bonne infrastructure. On leur demande de nous appuyer là, en allant voter, en allant remplir la pétition tout simplement là, au www.bornerapide.ca, là, au singulier, bornerapide.ca, bornerapide.ca. Ça amène directement sur le site des pétitions de l'Assemblée nationale, puis vous pouvez remplir la petite pétition. Il faut être résident du Québec, il n'y a pas de limite d'âge, donc c'est le règlement des pétitions au Québec. Là. Donc, techniquement, puis on s'est assuré que c'était le cas. Un enfant a le droit de signer la pétition, par contre, il faut que ce soit un enfant du Québec. Adulte de l'Ontario ne peut pas voter, là. Ça demande l'adresse puis le code postal, puis tu dois être résident du Québec. Donc, on est rendu au moment où on se parle, tout près de 6000 personnes qui ont signé la pétition en ligne, sans compter les signatures papier là, qui sont remplies un peu partout aux quatre coins du Québec, qu'on va récolter là, en fin de la semaine prochaine, pour être capable d'avoir un décompte final puis aller déposer le tout à l'Assemblée nationale, appuyé par M. Sylvain Gaudreau, le député qui roule en voiture électrique lui-même.
Bon, ça en prend aussi des politiciens qui roulent en voiture électrique. Il y en a quelques-uns.
Oui, il n'y en a pas des tonnes, mais ils commencent à en avoir, là, tranquillement, pas vite. Fait que Sylvain Gaudreau, tu sais, puis là, peu importe l'allégeance politique qu'on a, là, dans ce cas-là, c'est un péquiste. Il faut bien comprendre que pour déposer une pétition à l'Assemblée nationale pour forcer le gouvernement à faire de quoi, c'est bien rare que c'est le gouvernement en place qui t'appuie, là, parce que le but de la pétition, c'est de faire pression sur le gouvernement qui est là. Fait que forcément, c'est un parti de l'opposition habituellement qui t'appuie à déposer une pétition. Dans ce cas-là, ben, Sylvain Gaudreau, il a toujours été très favorable à l'électrification des transports. Il prêche par l'exemple en conduisant une 100% électrique lui-même. Donc, le match était bon. Puis, il croit à ce besoin-là. Là, il en est confronté lui-même sur une base quotidienne. Il vit en région. Il a souvent à se déplacer de par sa job. Fait qu'il est souvent confronté au problème du manque de bornes. Puis quand il y en a des bornes, il n'y en a pas assez. Puis ils sont jammés souvent, là, surtout dans les heures de pointe, la fin de semaine, puis tout ça. Donc lui-même le vit, puis vit les désagréments, comme on dit.
Ben c'est ça, parce que les gens veulent se déplacer de plus en plus parce qu'on découvre que, ben, c'est le fun de rouler électrique. Puis T'sais, deux ont pollué moins, en tout cas dans nos déplacements. On rentre pas dans le fait de « Ah, mais ouais, mais pour la construction, puis la conception, puis les batteries, puis tout ça, ça pollue. » Oui, à un moment donné, il faut se débarrasser des batteries, mais les batteries ont une deuxième vie. Fait que ça pollue quand même moins au quotidien qu'une voiture à essence ordinaire. T'sais.
Ah ben, c'est bien sûr. Hein? Si on veut être vraiment écologique, c'est une paire de running shoes, hein? Puis pas faite par des enfants dans un pays du tiers-monde, là. Mais une paire de souliers, c'est ça qui est le plus écologique encore. Le problème est que dans la vie où dans laquelle on est, ça nous en prend un véhicule. Hein, qu'est-ce que tu veux? On reste à plusieurs kilomètres de notre travail. C'est ça la vie en 2018. Là, donc, c'est sûr que pas d'auto, c'est ça qui est le plus écologique. Maintenant, à partir du moment où tu n'as pas le choix d'en avoir une, si tu peux aller au transport en commun, tant mieux. Mais si tu peux pas, puis il faut que tu t'en achètes une, ben nous, on pense qu'une voiture électrique, c'est un bon move. Mais là, c'est à chaque personne de se faire son idée sur le sujet. Là.
Ben, c'est ça. Puis ça va aussi prendre des concessionnaires qui ont des connaissances, parce qu'on regarde certaines personnes qui essaient d'aller chez certains concessionnaires pour s'acheter une voiture électrique, c'est pas toujours jojo. Fait que ça prend des, tu sais, mais un jour qu'on va convaincre les gens qui en veulent une ou qui pensent que ça pourrait marcher dans leur quotidien, ben ça va prendre des bornes pour les recharger, cette voiture. Là, moi, je recharge rarement dans une borne publique, ça m'arrive de temps en temps. Puis souvent, je le sais d'avance, genre, je vais partir chez nous, on va aller au cinéma à Laval, ben au cinéma, il y a des bornes, je vais me brancher, puis, tu sais, mon auto va être rechargée, mais faut que tu t'attendes, tu vas à un cinéma, tu le sais que la personne qui a branché son auto est peut-être là pour 2h30, si elle vient d'arriver, puis son film commence dans 20 minutes, ben, il y en a pour 2 heures. Fait que tu chargeras pas tout de suite, mais bon.
Non, c'est ça, puis tu sais, les bornes comme ça, des niveaux 2 de destination, ben t'es là, toi-même, t'es là plus longtemps, puis tu le sais que ça va être long chargé. Le problème, c'est qu'une borne rapide, tu t'attends à arrêter là pas longtemps puis repartir. Fait que techniquement, dans ton plan de match, là, t'as pas prévu être là ben ben longtemps. Fait que quand t'arrives puis t'es déjà mis 2 heures avant de pouvoir te recharger toi-même parce qu'il y en a 2 ou 3 en avant de toi, méchant plan de match qui vient de changer. Là, t'es pris entre deux centres, mettons, entre Montréal puis Québec. Puis t'as une réunion, puis là, t'es déjà mis pendant 2 heures, puis c'est pas ta recharge à toi nécessairement qui est longue, des fois, c'est d'attendre après les autres, puis là, tu te dis, pourquoi il n'y en a pas 2, 3, tu sais, on le sait qu'entre Montréal puis Québec, le monde, il arrête pour se charger, je veux dire, s'il y a bien une place, là, les haltes routières puis les stations-service, il y en a plein entre Montréal puis Québec, puis il n'y a pas rien qu'une pompe, là, tu sais, il y en a plus qu'une.
Ouais.
La différence, c'est que pour de l'essence, ben, il y a de l'argent à faire sans vendre, fait que des privés investissent en se disant, ça vaut la peine de faire installer des pompes puis des systèmes parce que à vendre de l'essence puis les cossins dans le dépanneur, ben on fait de l'argent, tu sais. Alors que la borne de recharge, elle, ben souvent, elle est toute seule, il n'y a rien d'autre, fait qu'il y a juste l'argent à faire sur la vente du service de recharge, puis c'est tellement pas cher, à 10$ de l'heure, tu sais, quand t'es là une demi-heure, 5$, un coup que t'as payé l'électricité, qui t'es sur le 5$, qui te reste 2$ ou 1,5$ de profit, puis que tu le splits entre toi puis le circuit électrique, ben là, tu viens de faire un gros 50 ou 75 cents, faut que t'en vendes des 75 cents pour rentrer dans ton argent de l'investissement initial, tu sais, c'est ça le problème.
Ouais, ça prend pas mal de monde qui vient de recharger.
Exact. Fait que ça prend des bornes, ça en prend beaucoup, puis il faut qu'ils soient bien installés, bien répartis intelligemment, puis ça va donner un grand coup de main, puis ça va être cohérent avec l'idée d'avoir plus de véhicules électriques, surtout, parce que là, on pousse les gens à acheter un véhicule d'un côté, puis on leur coupe l'herbe sous le pied, sous l'infrastructure de l'autre, donc c'est un petit peu contre-productif.
C'est bon, donc on espère que les gens vont les signer les pétitions. On va mettre les liens, là, sur les plateformes de Ça roule radio. Donc, si vous voulez aller signer la pétition, juste aller voir notre page Facebook, là, ou la page Facebook de l'AVEC, j'imagine.
Ah oh oui, c'est là, c'est partout.
Cliquez ouais. Le lien et aller signer la pétition. Donc, merci beaucoup, Martin, encore une fois, d'être venu nous jaser cette semaine, puis on se reparle dans quelques semaines.
Ça me fait plaisir, Luc.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Merci, bye.
Alors, nous, on fait une pause et on revient avec Marc et nos essais de la semaine. Nous sommes de retour de cette courte pause et Marc, c'est l'heure de tes essais de la semaine. Normalement, je dirais nos essais de la semaine, mais cette semaine, je n'ai pas d'essai. Présentement, je suis au volant du... Ben, pas présentement, là, mais cette semaine, je suis au volant du nouveau Nissan Qashqai, d'une couleur dont ma femme a été un peu surpris quand elle l'a vu dans l'entrée. Ça s'appelle Nitro. C'est vert, mais vert longtemps, là. Et puis...
C'est la couleur de lancement du véhicule.
Ouais.
Espèce de vert néon, machin. Là.
Exact. Donc, faut que je mette une bâche dessus pour que mes voisins puissent dormir le soir. Mais pour le reste, c'est un beau véhicule. Je vous en reparlerai sur l'émission la semaine prochaine. Donc, Marc, cette semaine, ça va être tes essais de la semaine. Tu vas nous parler en premier du BMW 240i. Comment est-ce que c'est, ce petit véhicule-là?
Le M240.
M240. Et j'oublie des lettres, des chiffres. Un moment donné, tu vois ça, je vais dire, ah, parle-moi de ton Haar.
Mon Haar, c'est ça. Mon Haar va bien, mon Haar.
Mon Haar.
Écoute, le M est important parce qu'évidemment, comme tu le sais chez BMW, le M, c'est la division de performance.
Ouais, exactement la même phrase que tu m'as dit la semaine passée.
Oui, c'est pour ça, mais comme tu n'as pas l'air d'écouter, j'aime mieux.
Mais tu sais, quand tu te mets à faire ta critique, moi j'éteins mes écouteurs puis je fais d'autres choses, je reviens dans 10 minutes, je sais que tu n'as pas fini de toute façon. Fait que, vas-y. Non, c'est beau. J'avais oublié le M, puis pour le pire, là, je l'ai en avant de moi, je l'ai marqué, là. Mais tu sais, j'ai oublié. Mais continue.
Alors nous revenons, c'est ça?
Non? Oui, nous revenons. Revenons à nos moutons.
Alors, effectivement, c'est pourquoi je précise encore cette semaine, un, parce que Luc n'écoute pas, puis deux, parce que c'est important dans un véhicule comme celui-là, parce qu'on a vraiment créé un petit modèle extrêmement dynamique.
Ouais.
Moi, j'avais la version coupée avec rouage intégral parce qu'on me l'avait prêté comme ça. Moteur 3 litres, 6 cylindres, 335 chevaux, 369 livres pieds de couple. Je peux te dire que ça déménage pour un véhicule qui est un petit véhicule, OK? Ouais.
La série 2 chez BMW s'est rendue la plus petite. Hein? La série 1 n'existe plus, me semble.
Ben, il y a le X1.
Oh, oui, mais comme dans un VUS, mais comme voiture, il n'y en a plus. Il y a la série 100, quelque chose, n'existe plus. Il y avait une M1 à un moment donné, me semble, ou quelque chose comme ça.
Non, effectivement, ça n'existe plus. Donc, la 2, c'est la plus petite. On parle d'un véhicule qui fait à peu près 1600 kilos, là, 3500 livres, vite fait.
Okay.
Écoute, c'est honnêtement un petit go-kart, sincèrement. C'est un véhicule qui est impressionnant dans son comportement. Honnêtement, moi, j'ai adoré cette conduite-là. Évidemment, comme la plupart des BMW, là, la voiture dispose de différents modes de conduite. Tu peux le faire en mode sport, en mode confort. C'est clair que les suspensions sont assez rigides, que tu le sens. Quand tu le mets en mode sport, là, je peux te dire que tu sens passer les bosses dans la rue. Je pense, d'après moi, que tu sentirais probablement un cheveu sur la chaussée. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture qui a une tenue de route absolument spectaculaire.
Okay.
Ça se conduit du bout des doigts. C'est totalement génial. Moi, j'ai beaucoup aimé cette auto-là. Évidemment, j'aurais aimé mieux l'essayer dans des conditions où j'aurais pu mettre sa puissance et ses performances à l'épreuve. On est quand même au mois de février, il y a quand même eu de la neige.
On se garde une petite gêne.
Oui, puis elle s'est quand même très, très bien débrouillée. Là. On va être honnête, là, c'est pas une voiture qui a eu de la misère, pas du tout. C'est une voiture qui s'est promenée et vraiment agréable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment la façon dont la voiture se comporte. Petite boîte manuelle, super intéressante. Vraiment, vraiment, là, c'est une auto qui m'a beaucoup impressionné par ses modes de conduite. C'est vraiment une voiture sport avec tout ce que ça implique comme définition de voiture sport. Donc, c'est, je te dis, agréable et tout. Bon, elle a quand même des inconvénients importants. Un de ses inconvénients, là, c'est l'espace.
Okay.
C'est un coupé, un petit coupé sport, avec ce que ça implique aussi comme espace.
Ça veut dire que Fiston ne s'assoit pas en arrière?
Oh, Fiston s'est assis derrière, mais il m'a détesté tout au long du 15 minutes que durait la randonnée.
OK.
Parce que non seulement il y avait les genoux dans le front, mais il y avait le front et la tête à côté sur la ligne de toit.
OK, fait finalement, ça donne pas beaucoup d'espace quand tu as la tête à côté sur le toit puis les genoux dans le front. Il devait avoir hâte d'arriver. Est-ce que vous n'allez pas tellement loin?
Non, c'est ça. On n'allait pas très loin, effectivement. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est pas tout à fait une M. Un peu comme la M760 la semaine passée était pas tout à fait une M, parce qu'il existe une M2.
OK. Ben oui. Une vraie M2, là.
Une vraie M brutale. Celle-là, elle est moins brutale. Elle partage le même moteur. Elle est moins brutale. Et on mise un petit peu plus sur le confort. Bien sûr, il y a encore le système multimédia de BMW qui, sans les commandes gestuelles, est un peu moins agréable qu'on le souhaiterait. Mais malgré tout, c'est vraiment une voiture. Écoute, je te dis, moi, j'ai été totalement... j'ai adoré le véhicule, littéralement. J'aurais passé des heures à son volant pour le simple plaisir. Je le répète, pour le simple plaisir et non pas pour le côté pratique.
Ouais, okay.
Parce que, tu sais, de ce point de vue-là, là, c'est zéro pratique. C'est vraiment une auto que tu achètes pour avoir du fun, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable.
C'est bien parce que j'avais entendu certaines critiques automobiles dire que BMW avait perdu un peu cette ce côté agréable à conduire dans d'autres modèles, puis qu'on dirait que la M2, c'est comme un peu le modèle qui a ramené un peu ça chez BMW.
Effectivement, c'est un peu ça. C'est ce qu'on avait peur avec, entre autres, la nouvelle série 5, avec la série 3, série 4. C'est des voitures qui sont le fun à conduire, mais qui n'ont pas... Tu sais, BMW, je donne toujours l'exemple que, par exemple, Mercedes-Benz, c'est le confort ultime au niveau des voitures allemandes.
Okay.
Tu sais, j'éloigne Porsche puis Volkswagen. Là.
Okay.
Fait que t'as Mercedes-Benz qui est en haut. Audi est comme dans le milieu. C'est un mélange entre la conduite sportive et la bourgeoisie et le confort de Mercedes. Bien qu'ils fassent... Les deux fassent des voitures de performance, là, on ne se cachera pas. Mais BMW avait toujours eu le côté, on est davantage tourné vers le pilote, on est davantage tourné vers le plaisir de conduire, et on avait l'impression qu'avec les nouveautés, on avait un peu perdu ça. Je peux te dire qu'avec la M240, on n'a pas du tout perdu ça. Okay. On est vraiment dans ce monde-là. Et, quand même intéressant, 50 000 $. Tu sais, c'est pas... C'est cher, tu vas me dire, pour un jouet, là. Mais c'est un jouet qui peut rouler 12 mois par année.
Ouais.
Et moi, honnêtement, c'est vraiment une voiture que j'ai adorée.
C'est une BMW, je veux dire, on s'attend à payer une prime, ouais, parce qu'on achète une BMW aussi. Là. Fait que j'imagine pour le type de véhicule, c'est un prix qui est raisonnable peut-être. C'est pas dans mon budget, là, mais c'est raisonnable, mettons. Là.
C'est effectivement raisonnable compte tenu quand on compare. Et c'est aussi un véhicule dont je t'ai pas parlé de la sonorité, mais vraiment, quand on la met en mode sport, là, c'est un petit véhicule qui a vraiment toute cette personnalité-là, incluant la sonorité. Ah non, c'est très raisonnable. À mon sens, en tout cas, c'est extrêmement raisonnable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette voiture.
Mais tu sais, à 50 000, t'as une Mustang moyennement bien équipée, avec un V8, tout ça, mais tu sais, tu vas chercher une Mustang GT moyennement équipée, tu roules dans le 50 000 aussi, là. Fait que tu sais, ouais, c'est dans le budget de beaucoup de gens, c'est juste que beaucoup de gens iront pas chez BMW parce qu'ils pensent pas avoir le budget pour ça. Mon père s'est déjà fait dire ça, à un moment donné, il était allé chez Amel, le groupe Amel, qui est dans le coin de Saint-Eustache, dans ce coin-là, puis il avait été magasiné pour une Honda Accord, puis le vendeur, il avait dit, tu sais, vous pouvez aller l'autre côté, puis à ce prix-là, vous pourriez quand même vous permettre une BMW de base, tu sais. Mais, ouais, ouais, mais après ça, t'as l'entretien, tout ça, qui est différent chez BMW que chez Honda. Mais, tu sais, t'as quand même des modèles qui sont abordables chez BMW, là. Mais
ouais,
souvent, on y va pas parce que, tu sais, on a peur à notre portefeuille.
Oui, mais en même temps, il faut se rappeler que maintenant, l'entretien est là pour 4 ans ou 5 ans. Tu sais, il y a toutes sortes de programmes, là,
ouais,
de différents genres. Mais effectivement... On n'y pense pas, mais la M, si t'aimes, comme je te dis, si t'aimes la conduite sportive et que t'es prête à faire quelques compromis sur le confort, c'est vraiment un excellent choix.
Non, c'est bon. Et comme deuxième véhicule, tu veux nous parler de quelque chose d'un peu moins sport, un peu moins agressif peut-être, le Ford F-150.
Ouais, le F-150 Platinum.
OK.
Un véhicule que j'ai eu l'occasion d'essayer, puis bon, j'essaye quand même assez souvent le F-150. Au fil des années. C'est un camion que j'aime beaucoup. Bon, moi, le style me plaît moins.
Oui, on sait, t'es un gars ram, toi, pour le look.
Oui, oui. Moi, j'aime le côté... Quoique, j'aime pas le nouveau, là, pour être franc. J'aime mieux l'ancien avec l'air un peu macho. J'aime quand même le F-150 et sa façon de conduire. Sauf que, bon, comme tu sais, j'ai eu des petits problèmes de santé.
Mm-hmm.
J'avais le F-150 et j'ai décidé, parce que je pouvais pas l'exploiter vraiment... J'ai demandé à ma voisine de m'aider. Puis je t'explique pourquoi ma voisine. Ma voisine a été propriétaire d'un F-150 2015.
OK.
Elle travaille sur la construction.
Mm-hmm.
Elle est habituée de conduire des camionnettes. C'est sa vie. Elle fait ça régulièrement. Puis elle avait, cette semaine-là, des matériaux à aller chercher.
OK. Fait que t'as choisi une personne qui est bien placée pour critiquer ce genre de véhicule-là. Là.
Exactement.
OK.
C'est, bon, sauf qu'à mesure 5 pieds 2. Fait que c'est un autre genre de problème.
Ben, juste un petit peu plus petite que toi, pas beaucoup.
Non. OK, je vais rester poli.
Ouais.
Ceci étant dit, donc, ce que j'ai fait, c'est évidemment, je suis allé avec elle, et c'est elle qui a conduit le camion pendant quelques minutes, histoire de me donner son opinion. Et j'ai trouvé ça fort intéressant, parce qu'elle était en mesure de faire la comparaison avec le modèle 2015. Elle a, évidemment, beaucoup aimé la version Platinum, qui est la version la plus équipée, on s'en doute.
Ben ouais, et la plus dispendieuse.
Oui, oui, on parle quand même d'un troc de 70 000 $, ce qui n'est pas donné. On parle aussi d'un véhicule là, qui est moteur V8, tu sais, gros, c'est le gros kit dans ce cas-là. C'est évidemment la version la plus outillée qu'on avait. Ceci étant, c'est 385 chevaux, 397 livres-pieds de couple, je te le dis, avec rouage intégral, bien entendu.
Quand je parlais de douleur au portefeuille la semaine passée, quand je parlais du Colorado ZR2 diesel, qui était un peu moins dispendieux en essence, le F-150, c'en était un qui m'avait coûté cher pour ma semaine. ça glougloute assez.
Effectivement. Mais en termes de performance, moi, c'est un camion que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé la douceur de ce camion-là, la façon dont il se comporte sur la route. Et c'est quelque chose qu'elle a apprécié. Pour elle, pour ma voisine, je te le répète, c'est un véhicule qui a beaucoup progressé de cette nature-là. Il arrive effectivement avec beaucoup plus de douceur de roulement, avec des suspensions mieux adaptées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle a apprécié. Ce qu'elle n'a pas aimé, par exemple, et ça m'a un peu étonné, c'est la transmission 10 vitesses.
OK.
On s'est retrouvé coincé dans une zone de trafic et elle avait l'impression, et elle me faisait remarquer, elle avait pas tort, les vitesses changeaient régulièrement et ça finit par devenir agaçant.
Ouais, c'est un peu le problème des transmissions qui ont plus que 6 vitesses. Quand c'est tu prends du 8, du 10, là, à un moment donné, à vitesse d'autoroute, c'est correct, tu t'en aperçois pas, mais quand tu commences à être dans des zones où tu avances un peu, t'arrêtes, ou tu changes beaucoup de vitesse dans des intervalles courts, c'est là que ça devient un peu agaçant. Là. Presque autant agaçant qu'une CVT là, dans certains cas. Là.
Non, effectivement. Alors ça a été vraiment, pour elle, ça a été probablement la plus grande déception parce qu'elle espérait beaucoup du F-150. Puis elle a un peu trouvé désagréable la notion là, de 10 vitesses. Okay. Pour le reste, elle a trippé sur les accessoires. Comme je te l'ai dit, elle mesure à peu près 5 pieds et 2. Bon, OK, elle est trois fois forte comme moi, même si elle est tout petite, mais c'est parce que moi, je suis pas en forme. Mais non, sérieusement, elle a transporté ses matériaux et elle a adoré l'espèce d'escalier là, qu'ils ont installé en arrière pour avoir accès à la boîte de chargement.
Ouais, ce qui est une bonne idée parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles.
Là. Effectivement, le marchepied latéral, bref, elle a beaucoup aimé ça. Elle a beaucoup aimé aussi le système de commande vocale 5.3 qui était à l'intérieur du véhicule parce qu'elle s'est battue avec la version originale de 5 qu'elle avait profondément détesté.
Mais elle, dans son, c'est un 2015 qu'elle avait. Elle devait avoir le MyFord ou quelque chose comme ça. Là, comment ça s'appelait?
C'est ça. Là.
L'ancienne version qui était affreuse. Là,
mais, c'était la pire. Là. D'ailleurs cette version-là qui provoquait le mécontentement chez tous les clients Ford quand on regardait les sondages. Bref, c'est vraiment, elle a vraiment beaucoup aimé. Et elle a aimé aussi la légèreté, la sensation de légèreté du camion. On le sait, c'est un camion qui est maintenant rendu en aluminium, donc elle a apprécié cette légèreté-là qu'elle a ressentie, dit-elle, au volant, donc c'est une excellente chose.
Okay.
Bref, elle a trippé sur le F-150 et elle m'a dit « Ben, tu sais, c'est parce que tu travailles à Montréal, parce que ça ferait peut-être partie de mes prochains achats.
» Ouais, c'est ça. C'est juste quand tu vas en ville avec ça, c'est un peu moins facile.
Exactement. Fait que, comme tu vois, même à 70 000 $, mais évidemment, elle l'a pas acheté. Là. Probablement qu'elle achètera une version un peu moins équipée.
Ouais. Faut que tu sois décidé pour aller chercher la version Platinum. Là. Faut que ça soit vraiment... Tu sais, le chef de chantier va aller chercher une version Platinum, là, tu sais, mais le travailleur régulier, là, normalement, va aller chercher une version un petit peu moins équipée que ça. Là. Ça commence à être cher pour un camion. Donc, Marc, on va terminer là-dessus cette semaine. Je vais juste prendre 30 secondes pour féliciter nos gagnants des concours. On vous a déjà, à l'heure qui est rendue là, on vous a déjà contacté. Vous savez que vous avez gagné. Félicitations, on espère que vous allez passer du bon temps. Et pour nous, Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
Ben, sur ma page Facebook, Marc Bouchard, c'est quand même la méthode la plus facile. Sinon, sur Twitter, Marc Soulignier Bouchard. Sur Instagram, c'est Bouchard Souligné Marc. Et bien sûr, ils peuvent aussi le faire par la info@saroulradio.com, qui est l'adresse que l'on reçoit tous les deux et avec laquelle on travaille le plus souvent.
Exactement. Pour moi, si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitter, @Calazormo. Il y a la page Facebook et le compte Twitter de Saroule Radio que vous pouvez trouver à Saroule Radio. Vous pouvez nous écouter sur des radios web, soit Radio Média Plus ou sportradio.ca. Et puis, vous pouvez nous télécharger sur iTunes ou sur Google Play. On est aussi sur différentes plateformes, là, RZO Web. On est aussi sur Balado Québec. Donc, vous pouvez nous trouver là aussi si ça vous intéresse. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir écouté cette émission cette semaine. Et puis, on se dit ben, à la semaine prochaine. Et faites attention à vous. Bye.
Bye.